Merci de votre fidélité au programme de Radio Capi. Métissage reçoit dans cette seconde partie un artiste congolais de renommée internationale. Il vit depuis quelques années à Lausanne en Suisse. Il séjourne présentement à Kinshasa et nous avons le bonheur donc de recevoir dans ce studio Pepe Feli Manokouakou. Bienvenue chez nous.
Merci beaucoup.
Vous êtes guitariste mais chanteur également, auteur-compositeur. Beaucoup de chroniqueurs culturels vont jusqu'à vous considérer comme étant les créateurs même du style Seven. On va en parler tout à l'heure. Et vous êtes un des cofondateurs du groupe Zaiko Langa Langa qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Pepe Feli Manokou, vous avez fêté votre anniversaire le 19 août dernier. Alors, c'était le 50e anniversaire?
C'était le 55e.
Ok, ben, même si c'est en retard, on vous souhaite bon anniversaire.
Merci beaucoup.
55 ans d'âge, combien d'années de carrière dans la musique?
Ça fait 40 ans.
Puisque nous parlons des Zaiko, on va justement permettre aux gens de revivre encore Zaiko lorsque c'était encore à l'époque. Nalali Pongi, une composition de Jostar Nyokalongo. Et là, Ça nous rappelle les bons vieux temps du groupe Zaiko Langa Langa. Nous avons le bonheur de recevoir dans ce studio un des cofondateurs de ce groupe, en la personne de Pepe Feli Manuaku Waku, guitariste congolais de renommée internationale, mais aussi un chanteur et un auteur-compositeur. Pepe Feli Manuaku, en écoutant cette chanson, il y a certainement des souvenirs qui vous reviennent, j'imagine.
Je revis encore l'année 1977. Je revis encore une tournée qu'on avait fait entre Togo et Ghana, et je revois encore des images, plein d'images, plein d'émotions.
Voilà. Alors, l'actualité, on commence d'abord par les chapitres Zaiko. Cette année, c'est le 40e anniversaire des Zaiko. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de bilan de ces groupes qui a marqué l'histoire de la musique congolaise moderne?
Alors, en termes de bilan, je pense que je suis mal placé, simplement parce que c'est pas moi qui conduit la destinée de ce groupe, c'est plutôt mon frère, mon ami, mon collègue Josar Nyokalongo.
En tant qu'un des cofondateurs
alors,
de ce groupe.
Alors, en tant qu'un des cofondateurs de ce groupe, je dirais à un seul mot, le bilan est positif. Pourquoi? Parce que le groupe est là. Le groupe est actif, le groupe est opérationnel, donc le nom est là, donc le bilan est positif.
L'année passée, vous étiez ici à Kinshasa avec Redo Likinga et il y avait même un concert qui était organisé à la Foire internationale de Kinshasa. Il y avait Vuelas, Mavuelas Somo, vous avez tenu en haleine les publics avec une prestation riche en couleurs. Et qu'est-ce qui est prévu pour les 40 ans des Zaiko?
Alors, pour les 40 ans, il y aura un spectacle. Mais jusque-là, nous attendons le programme qui va nous parvenir de la part de Josar.
Oui.
Josar Nyokalongo, c'est lui qui va nous fixer. Et puis, en fonction de ça, on va se mettre au travail, savoir comment étoffer ce spectacle et puis festoyer les 40 ans et partager ce moment avec le public.
Alors, Pepe Feli Manuaku, 40 ans de carrière aussi, 55 ans d'âge. Comment est-ce que Manuaku lui-même évalue son parcours? Quels sont les temps forts de ces parcours?
En tout cas, mon parcours est divisé en deux parties. Les 20 ans que j'ai passés ici au pays, pour moi, c'était une étape formative. Donc, je me suis formé sur tous les plans artistiques, sur le plan technique, sur le plan émotionnel, spirituel. C'était vraiment la période où j'avais besoin d'emmagasiner certains éléments. Les autres 20 ans qui ont suivi, à découvrir d'autres aspects du monde, éventuellement d'autres aspects artistiques aussi. Parce que vous voyez, l'image que je me fais, c'est un comptoir.
Oui.
Un comptoir, donc on peut pas occuper les deux parties du comptoir en même temps. Donc, faut choisir un camp. Par la suite, j'ai choisi l'autre camp pour pouvoir me former, me recycler, me retrouver dans un autre environnement, faire d'autres rencontres, et puis partager des expériences, et puis et ça, ça m'a permis de découvrir en moi la capacité et le don de pouvoir transmettre le savoir. Ce qui fait que la deuxième partie, les derniers 20 ans que j'ai passé en Suisse, c'était pas facile au début, parce qu'il faut trouver sa place, trouver déjà un réseau, et pouvoir trouver sa place dans ce réseau, dans ce petit cercle, et puis après essayer d'émerger. Et en fin de compte, à la fin, j'ai pu enseigner, donc j'ai pu être engagé comme enseignant, donc j'ai eu le statut de fonctionnaire, et puis j'ai commencé à transmettre le savoir, donc l'initiation musicale.
Et vous continuez à enseigner jusqu'à aujourd'hui?
Je continue à enseigner, mais j'ai compris une chose, il y a beaucoup de talents ici au pays, et puis à présent j'ai 55 ans. Ça veut dire que l'expertise que j'ai fait là-bas, et tous les acquis que j'ai pu accumuler,
il faut les partager.
Il faut les partager. Ce qui fait qu'à présent, j'aimerais être à cheval. J'aimerais vraiment construire une passerelle entre Lausanne et Kinshasa, une passerelle entre la Suisse et la RDC, et voir dans quelle mesure, et créer les possibilités pour pouvoir apporter les techniques, les méthodes, la façon de travailler, la façon même de s'organiser artistiquement sur le plan de musique et puis d'autres disciplines artistiques aussi. Parce que je pense qu'il est de notre devoir, nous qui nous trouvons au sommet de la pyramide je prends cette image-là. Il nous appartient d'apporter des choses, des technologies et d'aider, d'ouvrir d'autres voies pour la jeunesse qui aspire à faire ce métier.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs vos multiples séjours à Kinshasa.
Oui, vous avez tout compris.
Voilà. Voilà, Pepe Feli Manouakou, on vous reconnaît comme étant l'inventeur du style Seben, une combinaison de notes dansantes. Alors, parlez-nous un peu du Seben. Ça s'est passé comment que vous puissiez proposer au public ces nouveaux styles qui aujourd'hui de plus en plus s'identifient comme étant l'une des variétés de la musique congolaise?
Mes prédécesseurs avaient déjà commencé à travailler dans cette direction. Alors là, je vais citer les maîtres Docteur Nico, Grand Maître Franco, Tino Barroza, Bavon Marie-Marie, Jerry Gérard, Papa Noël. Il y a une longue liste que je pourrais pas citer tout le monde, parce que le temps nous est compté, le temps est limité. Ces maîtres-là avaient déjà commencé le travail. Et quand Zaïko est arrivé, pour ne pas dire quand je suis arrivé, quand on est arrivé dans le Zaïko avait apporté un nouveau propos. Et ce nouveau propos était orienté un tout petit peu ailleurs que ce qui était connu dans les habitudes de la musique congolaise.
Mmh.
Et alors, dans ce propos-là, si je peux l'expliquer sur le plan technique ou sur le plan en termes de musique, je vais dire ceci. J'avais fusionné le grand maître Franco et docteur Nico. En le fusionnant, j'ai créé la voix du milieu. Et en écoutant aussi Papa Noël et Jerry Gérard, donc là je fais allusion à l'orchestre bande de la capitale,
mm-hmm.
qui a vraiment bercé ma jeunesse. J'écoutais beaucoup les chansons de la guitare de Papa Noël dans Bantou et la guitare de Jerry Gérard. Et sans oublier aussi les jeunes belgicains de l'époque. Là, je fais allusion à Los Niquelos,
les
voilà. Nuits Nationales, le Zaïko avec C que Pierre Ngalula avait créé à Bruxelles. Alors, j'ai écouté aussi tous ces guitaristes-là. Au fait, il y a eu un cumul en moi.
Mmh.
Et tous ces éléments musicaux m'ont permis de placer la voix qu'on appelle aujourd'hui la troisième école de guitare de la musique congolaise et qui a fait asseoir ce Seben-là qu'on appelle aujourd'hui, le Ndombolo, le coupé décalé. Mmh. Alors moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais doublé des notes. Là où mes aînés avaient utilisé des noirs, moi, j'ai utilisé des croches et des doubles croches. Donc, ça fait un mouvement un peu plus rapide. Mais le tempo n'est pas vite.
Mmh.
Mais c'est cette pléthore de notes qui donne l'impression que c'est un mouvement rapide, que c'est assez rythmé. C'est assez rythmé. Et ça, j'avais commencé déjà cette expérience en 1972. Mais c'était pas vraiment bien équilibré. Et il nous a fallu effectuer une tournée au Congo-Brazzaville. On partait de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire et puis aux petites heures du matin, on a écouté le frottement de roues sur les rails, le moteur. Alors, les rails sont équidistants à l'endroit là où il y a le joint. Et ça tapait ta-ta-ta-ka-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ka. Et Meridio a essayé ça sur sa batterie et pendant la tournée, il essayait un peu de faire la mise en place de ce pattern dans nos productions scéniques. Et c'est là où le Seben a pris son équilibre et s'est installé jusqu'aujourd'hui.
Et c'était l'envol.
C'était l'envol. Vraiment, merci beaucoup à mon ami, à mon grand frère, à mon collègue Meridio, dont on parle moins.
Oui.
On devrait parler beaucoup de lui parce que ce beat a été même repris par les Kassaves, presque par tout le monde.
Justement, on va aborder aussi un chapitre sur votre parcours. Vous avez monté en 1978 avec Ray Lema, l'orchestre expérimental Léa Toupas. Mais puisque nous parlons de Ray Lema, on va d'abord écouter un de ses morceaux et puis on va revenir sur Pepe Feli parce que vous avez également travaillé avec Jimmy Cliff et ainsi que les chanteurs français Jacques Higelin et d'autres stars. Pepe Feli Manouakou. Mais je signale également que Rémi Césaire Tchamala se retrouve de l'autre côté de la baie vitrée pour la réalisation donc de cet entretien. Merci Rémi. Alors Marcel, merci de me rejoindre.
Merci beaucoup. Merci aussi à tous les amis qui suivent Radio Capi à cet instant.
Alors, tu as une question à poser à Pepe Feli Manouakou.
En effet, Jean-Marc, en 1978, comme Jeannot vient de le dire, Pepe Feli, vous avez créé le groupe Les Yatoupas. Parlez-nous de cette expérience?
En tout cas, ma rencontre avec mon aîné Ray Lema était très bénéfique pour moi. Parce qu'en fait, déjà, dès le bas âge, pendant qu'il jouait dans les East Boys, je le suivais, j'écoutais son jeu de guitare, puisqu'il avait beaucoup travaillé Jimi Hendrix. Vraiment, il avait avalé Jimi Hendrix. Alors, j'aimais bien quelques techniques qu'il faisait là. Quand je l'ai rencontré, il était intéressé déjà à moi, à notre retour de la tournée qu'on avait fait au Togo et au Ghana. Et c'est là qu'on avait enregistré la chanson Zaïkouawa. Alors, ce son-là que j'avais joué, cette mélodie-là de ce Seben-là, l'avait vraiment beaucoup intéressé. C'est ça qui lui avait poussé de s'approcher de moi. Alors on s'est rencontrés, je dirais, c'était comme un examen d'admission, parce qu'il habitait à la cité Salongo. Il m'a fait venir parce qu'on avait un ami commun qui était venu me chercher, puis je n'en revenais pas. Le grand Ray me cherche, non mais pour moi c'était comme si j'allais voir le bon Dieu. Et j'arrive à la cité Salongo, on se rencontre, on sympathise, on fait connaissance, et puis on passe aux instruments, on commence à me jouer quelques thèmes, puis... Je me suis mis à m'harmoniser avec lui. Après, il s'est dit, oui, c'est concluant, on peut travailler ensemble. Et alors, c'est là où naquit ce projet de Yatou Pass.
Donc, c'était un examen réussi.
Un examen réussi.
Et le groupe avait pour mission d'améliorer les sonorités de la musique congolaise. Est-ce que vous avez pu réussir votre mission?
Bon, ça c'est la formulation de quelqu'un qui tient la plume comme vous. Hein. Ça c'est la formulation d'un journaliste. Mais moi en tant qu'artiste, je crois que je le dirais différemment. Mm-hmm. Je dirais que pour nous c'était un laboratoire. On jouait pour jouer. On ne cherchait rien, mais plus on joue, on tombe sur des clichés, on tombe sur des grilles qui peuvent être intéressantes, et puis c'est là où on s'est accroché, puis il s'est passé un phénomène. La plupart des chanteurs, musiciens congolais, on les avait sur notre dos. Ils venaient pour faire arranger leurs chansons et tout. Et les premières chansons de Koffi Olomide, Asso et puis d'autres titres, c'était enregistré avec les musiciens de Yatou Pass. Sauf, c'est Ray Lema qui n'avait pas participé à ces enregistrements-là. Mmh. En fait, on s'était retrouvés vraiment au centre. Je crois que l'expérience était très, très, très concluante. Mmh. Et puis, il y a M. Akwesson,
Gérard
Akwesson, qui était manager d'Abeti, qui s'intéressait à notre travail. Il nous visitait souvent. Et puis, on avait fait un répertoire instrumental qu'on avait enregistré au studio Ronapec. Et M. Gérard Akwesson avait pris cette bande, il l'avait amenée à Paris chez M. Gilles Sala, qui est aussi journaliste, un musicien au départ, mais qui s'était converti en journaliste juste pour préparer la plateforme pour pouvoir faire la promotion des artistes et musiciens. Donc c'est lui qui a été à base de mettre cette plateforme au niveau de la France.
Et en 1979, avec le groupe Yatou Pass, vous avez remporté les prix Maracas d'or.
À partir de cette démarche-là, de cette bande-là, de ce répertoire-là de la musique instrumentale que Gilles Sala avait dirigé la production, la réalisation, je veux dire, au niveau de Paris, qui nous a valu l'obtention de ce prix Maracas d'or.
Alors, Pepe Feli Manouakou, vous avez travaillé avec Jimmy Cliff, je dirais la star de la musique jamaïcaine. Vous avez accompagné également les chanteurs français Jacques Higelin. Vous avez eu également l'occasion de jouer en 1977 avec le seigneur Pascal Rochereau-Taboulay au Festac, c'était au Nigeria, à Lagos. Mm-hmm. Parlez-nous un peu de toutes ces collaborations avec ces stars, avec toutes ces célébrités de la musique, que ce soit africaine et internationale.
Au fait, c'est ça le point le plus important. Le point qui est vraiment très intéressant dans ce milieu artistique, c'est les rencontres. Quand une rencontre se fait, se réalise, se concrétise, il y a deux aspects des choses qui se passent là. Il y a l'aspect spirituel déjà, la communication entre les deux êtres humains, les deux âmes qui communient, et puis après, quand on passe sur les instruments, c'est encore autre chose. Et il y a un échange qui se fait. Et puis, en même temps, on se nourrit de l'un comme de l'autre. Donc, on s'est nourri, c'est un échange qui se fait. Donc, c'est ça qui nous fait grandir spirituellement, psychiquement, artistiquement et humainement.
Mmh. Et avec Jimmy Cliff, c'était aussi, on dirait, comme on dit, c'est du choc d'idées qui jaillit la lumière.
Exactement. Et j'étais très, très frappé et fasciné par cette rencontre parce que j'avais appris un mot important, c'est l'humilité.
Mmh.
Parce que Jimmy Cliff se déplaçait, j'habitais encore à Binza Delvaux, vers le marché de Delvaux, j'habitais par là. Et Jimmy Cliff se déplaçait, il venait chez moi, et on restait dans ma maison, et il mangeait avec moi, on faisait tout. Et après il repartait, là c'était les préparatifs, et puis les répétitions, on le faisait au croisement des avenues Victoire et Gambela. Là-haut, j'ai grandi avec mes parents et tout, et toute ma famille. Et on faisait les répétitions là-bas. Et il se déplaçait, il venait là. Et après, on est parti au studio IAD à Brazzaville pour faire les enregistrements. Mmh. Et on a partagé la chikwang ensemble.
Ah bon ?
Même pas des assiettes, on a ouvert juste les feuilles d'emballage. Et chacun piochait, lui comme moi, on mettait la main dans la même chikwang. On a partagé la chikwang et le makayabo, la morue. Alors ça m'a beaucoup frappé parce que c'est un grand monsieur, c'est un grand personnage, Jimmy Cliff, parce qu'il écrivait des textes pour Otis Redding.
Vraiment.
J'ai bien rappelé ça. Parce que c'est un monsieur que j'ai suivi aussi depuis mon bas âge. Parce que j'avais la chance, mon frère aîné m'avait offert un poste de récepteur qui captait la voix de l'Amérique et France Inter. Ce qui fait que ça me permettait d'être à la pointe des informations sur le plan de musique et culturel. Et c'est comme ça que j'avais su que Jimmy Cliff écrivait des textes pour Otis Redding.
Qu'est-ce qui était à la base, je dirais, de la triste fin du groupe Grand Zaiko Awa que vous avez créé en 1980?
Ah, en fait, moi au départ, j'avais pas envie de créer un orchestre. Hein. Quand je suis parti de Zaiko Langalanga, c'était juste pour défendre les révoqués. Et il s'était passé un phénomène. Je me suis retrouvé abandonné par le révoqué.
Mmh.
Et vu que le processus était déjà mis en place, donc je pouvais plus reculer. Et j'avais pas de choix, j'ai avancé comme ça. C'est comme ça que je me suis retrouvé tout seul avec des jeunes que j'avais recrutés par-ci par-là. Et arrivé à 10 ans, je m'étais donné une autre vocation. Donc vraiment, j'avais envie d'autre chose. Puis on a fait la tournée. Et après la tournée, je voulais me recycler, puis me consacrer plus à ma famille, et puis voir d'autres horizons, expérimenter différemment aussi la vie.
Mmh.
Parce que, en fait, quand mes études étaient interrompues, je me suis retrouvé dans la musique. Et j'ai jamais connu ou vécu le système d'aller travailler chez quelqu'un et d'attendre un salaire à la fin du mois. Donc, dans Zaiko, j'étais un des administrateurs, donc mon propre patron.
Mm-hmm.
Alors, après avoir passé ces 20 ans-là, 10 ans dans Zaiko Langalanga et 10 ans dans Grand Zaiko, j'avais envie aussi de voir d'autres structures, comment est-ce que ça se passe et tout. Et ça m'a beaucoup mûri aussi.
Ok.
Ouais.
Mm-hmm.
J'ai travaillé dans plusieurs structures, dans plusieurs domaines, les domaines qui n'étaient pas miens, mais bon. Ça fait grandir l'homme, hein. Alors, ça m'a permis d'avoir les acquis que j'ai aujourd'hui et d'être aussi solide.
Même vous avez lancé, il y a de cela 10 ans, quand Papa Wemba fêtait encore ses 50 ans d'âge, il y avait le festival Papa Wemba Fulangingé. Vous étiez parmi les invités, mais bien avant ça, vous avez lancé l'album L'Alchimie, un album qui avait des très belles chansons, mais qui a souffert d'un manque de promotion.
De promotion, oui.
Tout dernièrement, j'ai appris que vous avez pensé lancer un groupe africain, quelque chose comme ça. Où en êtes-vous avec ces projets?
C'était au 44e anniversaire de l'indépendance. Alors, il m'a été demandé de réunir tous les musiciens congolais habitant la Suisse et puis préparer un spectacle pour cette manifestation.
Mm.
Et ça m'a permis de remettre sur les rails certains collègues qui avaient tourné le dos à la musique. Entre autres, je peux prendre un exemple d'un trompettiste qui était dans le jazz qui s'appelle Souris Kampoku. Mm. Et il s'était remis à la trompette et puis après cette manifestation, J'étais parti aux États-Unis, en Californie, pour quelques séances d'enregistrement au studio là-bas. Je devrais aller placer des guitares sur un projet là-bas. Uh-huh. Et à mon retour, les collègues, ils étaient très, très, très émerveillés de cette prestation. Et puis, ils avaient souhaité que la structure puisse continuer. Alors, j'ai dit, mais bon, alors, comme il en est ainsi, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'au moins chacun s'implique dedans. Que ça soit pas une affaire d'une personne. Et puis, on a commencé, ça s'appelait African Mambo.
Voilà, c'est ça, African Mambo, ouais.
Et les débuts, c'était bien. Après, j'avais constaté qu'on n'avait plus la même vision, la vision des choses. Ouais. Parce que c'est pour cela, j'aimerais vraiment implanter des structures ici au pays pour faire comprendre déjà aux personnes qui aimeraient faire carrière dans cette discipline, de savoir déjà pourquoi ils le font. Ça, c'est la première question vraiment primordiale.
Pas de projet d'album?
Projet d'album, oui, il y a un projet d'album. Je suis en train de faire un album. Je travaille sur Paris.
Okay.
Et puis, je crois que je vais profiter de travailler aussi un moment ici pour avoir les vibrations de certains collègues ici de la place.
Certainement, il y aura du Ray Lema là-dedans.
Oui, il est un de mes invités. Il y aura Ray Lema, il y aura le grand Manu Dibango au sax.
Ouais. Ben on va encore suivre une dernière question avec Marcel Mayoyo Fwamba Raphaël qui est avec moi dans ses studios. Marcel.
Manouakou, pensez-vous avoir légué un héritage à la jeunesse congolaise?
Oui, je suis certain et persuadé que vraiment j'ai légué l'héritage. C'est quand j'écoute tout ce que la jeunesse joue, c'est des fragments que j'avais déjà joués. Mais il y a un point qui m'attriste et qu'ils n'utilisent qu'un maillon de la chaîne. La chaîne, elle est longue. S'ils peuvent tout écouter, c'est beaucoup mieux. Et mettre l'intelligence dans ce qu'ils font.
On vous appelle les magiciens de la guitare, Nikon l'appelait le dieu de la guitare. Et puis Manouakou Waku, vous êtes une référence en rapport avec la guitare. Je m'en vais ici lire les commentaires d'un confrère qui nous a écrit. Il dit que vous êtes le guitariste, vous êtes le plus grand guitariste lyrique de tous les temps. Mais j'ai lu sur les sites Afrique Echo, vous avez accordé une interview à Jossar Mwanza que je salue. Vous avez dit Madilou et Pepe Kale étaient les seuls à pouvoir chanter avec une texture grave et aiguë. C'est-à-dire
qu'ils avaient une large spectre de possibilités vocales, c'est-à-dire qu'ils avaient une voix vraiment grave, basse, et puis ils pouvaient aussi aller dans le registre aigu.
Et il y en a plus?
Je suis sûr que, mais je n'ai pas encore calculé, donc là c'est vraiment une équation que vous venez de placer dans ma tête, je vais faire des analyses. Je suis persuadé qu'ils atteignaient 5 octaves.
Voilà, alors on va clôturer cet entretien avec l'actualité. L'actualité, c'est Evo Loco qui est, je dirais, un de vos plus proches amis. Vous l'avez d'ailleurs, vous étiez d'ailleurs là les jours où il a été libéré avec d'autres personnes qui ont bénéficié de cette mesure prise par les ministres de la Justice. Alors, quelques souvenirs par rapport à Evo Loco, et est-ce que vous envisagez déjà des collaborations, de réaliser des œuvres avec lui?
Oui, il n'y a même pas à négocier parce que nous faisons partie d'une même famille, on se voit souvent et puis on est appelé à s'assister dans le bonheur comme dans le malheur. C'est ça la raison qui fait que mon ami Marcel m'a vu au parquet. C'était juste pour aller soutenir un frère. En l'occurrence, monsieur Evo Loco. Alors, au fait, il y a des projets. On attend les producteurs qui peuvent sponsoriser et organiser les prestations. Et on est là, on attend.
Ben, on va clôturer d'ailleurs cet entretien avec la chanson Beyuna d'Evo Loco. Mais un commentaire de votre part avant que nous puissions écouter la chanson.
En tout cas, pour moi, Evo Loco, c'est un chanteur né. Il est né avec toutes les capacités corporelles, je veux dire, pour être un chanteur. Mmh. Alors, cette capacité, d'autres personnes peuvent les avoir aussi, mais il y a un travail qu'il faut faire pour atteindre ça. Mais lui, il n'a pas eu besoin de faire ce travail-là. Donc, il est né avec tous ces acquis-là. Donc, c'est un grand chanteur, c'est un grand compositeur que je respecte.
Alors, pour ceux qui sont intéressés d'entrer en contact avec Manouakou?
Pour entrer en contact avec Manouakou, je pense qu'ils peuvent contacter la radio Okapi. Et puis comme ça, ils sauront comment me joindre.
Ok. Voilà, Marcel, merci de m'avoir accompagné dans cet entretien. C'était avec plaisir.
Moi aussi, c'était de même. Merci aussi à Manuel Kou d'être passé. Il nous a honoré par sa présence dans ce studio de Radio Capi.
Merci à Rémi Césaire Tchamala qui a assuré la réalisation de cet entretien. Alors, Pépé Félix Manuel Kou, on vous retrouve prochainement sur les ondes de Radio Capi pour d'autres nouvelles parce que vous êtes un artiste qui a encore beaucoup de choses à donner.
Oui, oui, ça c'est sûr et certain. J'ai encore des choses à donner, je passerai en tant qu'opérateur culturel.
Vous serez toujours les bienvenus. Et
merci,
on vous accompagne d'ailleurs avec ce titre Beyuna de Evoluko Lai Lai.
Merci de m'avoir invité.
Merci.